Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcan, les grandes entrevues de la semaine.
Nous avons appris ce matin le décès de Serge Laprade, 83 ans. Serge Laprade, un personnage dominant de la vie artistique au Québec. Chanteur, bien sûr, animateur, travaillé à la télé, à la radio. Je l'ai côtoyé brièvement à la radio. Un homme d'une élégance, d'une grande classe, d'une grande gentillesse. Et on se souvient que l'automne dernier, il avait épousé son conjoint Daniel Arsenault, avec qui il était depuis 50 ans. Absolument incroyable. Et Daniel Arsenault est avec nous ce matin. Daniel, bonjour.
Bonjour, bonjour mes amis.
D'abord, toutes nos sympathies, nos pensées et les pensées des auditeurs sont avec vous ce matin. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les derniers moments de Serge? Comment ça allait? Qu'est-ce qui s'est passé?
Écoutez, tout s'est passé tellement vite, c'est quelque chose à laquelle on s'attendait pas du tout. Tout s'est chaviré à l'intérieur de 3 semaines et on était loin de penser qu'on serait là ce matin à vous annoncer son décès. Mais on a découvert un cancer au niveau de des ganglions de l'aine. Et puis, à partir de là, on a offert plusieurs possibilités de le soigner, soit opération, qu'on a tout de suite dit non. Ensuite de ça, il y avait chimiothérapie. Et là, on s'est regardé et on a dit, on a assez souffert en temps de vie, ça fait qu'on a opté pour ne pas aller vers des soins. On a opté pour aller vers des soins palliatifs, des soins de douceur.
Des soins de confort pour lui permettre de vivre ses derniers moments avec pas de douleur.
De confort. Puis il y a toujours eu un mot pour son public. Il pensait à son public tout le temps. Et puis j'aurais aimé ça leur dire un au revoir. Alors, je vous remercie de me donner la possibilité, à son nom personnel, de saluer toute vos auditeurs. Pardon, mon Dieu, j'ai manque de sommeil. Il aimait la vie, il aimait son métier, puis il aimait surtout son conjoint. Alors, on a passé une maudite belle vie.
J'allais vous dire, quand le mariage a eu lieu, on savait que vous étiez dans sa vie depuis toutes ces années-là. Pourquoi c'était important, le mariage, 50 ans après?
On l'a fait pour une raison bien précise. C'était pour démontrer que, qu'on soit binaire, pas binaire... avec tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau des genres, on a voulu justement ouvrir la porte aux gens pour leur dire c'est important qu'on soit ouvert et que c'est possible que 2 personnes du même sexe peuvent vivre pendant 50 ans heureux. Et c'est le message qu'on essaie de faire aux jeunes et aux parents de ces jeunes-là.
Est-ce que vous auriez souhaité le dire avant? Il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans?
Non, pas du tout. On n'a jamais eu besoin de... on n'était pas le genre... Si on le fait, c'était vraiment parce que c'était dans le pic, là, où on parlait des toilettes communes pour dans les écoles, et puis bon, etc. Alors, je trouvais que le débat, les gens se cassent la tête. Respectons chaque humain et bravo quand on est straight et puis qu'on vit une vie de straight, c'est bien correct, mais il y a des gens qui ont le goût de vivre leur vie différemment. Pourquoi ne pas leur laisser vivre leur vie et les aimer et les encourager? J'ai eu ça de ma famille, j'ai eu des encouragements, on m'a jamais laissé tomber et ça fait de moi un homme aujourd'hui que je parle d'une relation de 50 ans. Alors, c'est ça que ça donne quand on aime les gens puis qu'on est accepté.
Monsieur Arsenault, vous résumez ça en disant l'amour c'est l'amour, le reste c'est secondaire.
Ah, c'est tout. Le reste, pourquoi essayer de penser à ce que ça va donner dans 10 ans? Non, vivons le moment présent. Et qu'est-ce qui est le plus merveilleux que d'être en amour? Là, ce matin, j'ai le cœur encore rempli d'amour. Demain matin, je ne sais pas. Mais je perds 50% de ma vie. Là. C'est un énorme morceau. Mais en même temps, il voudrait tellement que ma vie continue, que je sois bien, que je sois heureux. Alors voilà, c'est tout ce que je peux vous dire.
On vous le souhaite. Merci beaucoup d'avoir pris ce moment-là avec nous. C'est très gentil à vous.
Très gentil, merci beaucoup.
Merci, au revoir. Daniel Arsenault, conjoint de Serge Laprade pendant 50 ans. Et on va en parler avec Catherine, mais tous ceux qui l'ont connu, il va vous parler au passé, mais c'est probablement ce qu'on appelle un gentleman, je voulais dire, une bonne personne, jamais un mot contre l'autre, d'une gentillesse, un professionnel, c'est vraiment un travaillant rigoureux. Je l'ai croisé à CJMS à l'époque, mais dans d'autres occasions, il est venu ici en entrevue, vraiment, vraiment quelqu'un de bien.
Et c'est vraiment un homme gentil, tu l'as mentionné.
Absolument.
Je l'ai rencontré aussi à quelques reprises.
Il y a des faux gentils, là, mais oui. Lui, c'en est un vrai, vrai.
Non, puis je l'ai rencontré même à l'épicerie. Je sais, ça peut paraître bien bizarre, mais aussi gentil en privé qu'en public aussi. Et Serge Laprade a eu une très, très grande carrière au Québec qui a commencé très tôt, au milieu des années 60. Tu l'as mentionné, a été animateur radio sur plusieurs chaînes, à la télé aussi, chanteur. Parmi ses faits d'armes, on se rappelle évidemment de ce jeu. Le travail à la chaîne.
Le travail à la chaîne, avec un grand sourire aux lèvres et une petite fleur à la boutonnière, le beau Brumel de la chaîne française de Radio-Canada, Serge Laprade.
Autre fait d'armes également dans les années 80, ça c'est pour les plus jeunes, certainement Garden Party. Ça a marqué TQS avec la seule et unique Michel Richard. You. On n'a pas passé l'été au lit. Oh non, you, on a bien chanté. Un homme qui a le cœur sur la main parce qu'il a animé aussi pendant 10 ans le Téléthon de l'Association de la paralysie cérébrale. Et comme chanteur, il a sorti une douzaine d'albums avec des succès comme
Nous n'irons plus jamais comme les autres années.
Je la connais par cœur. Également celle-ci.
Prends bien soin d'elle. Oui, prends soin d'elle.
Et aussi l'amour interdit.
Il est à s'aimer en préservant notre secret pour ne faire de peine à personne.
Il était plus discret dans les dernières années, mais était revenu à l'avant-scène, effectivement, avec ce mariage, avec son amoureux des 50 dernières années. Couverture de magazine, entrevue. Il était d'ailleurs de passage à l'émission de Patrick Lagacé en octobre dernier pour parler justement de pourquoi il avait caché cette relation à son public adoré.
D'abord, moi, j'ai essayé de me créer une image, forcément, pour le public. C'était pas faux, c'était moi. Mais c'était moi que je peaufinais, c'était moi qui faisais attention pour parler bien, pour s'habiller bien, pour avoir des bons mots pour le public, aider même le public, faire des télétons. Alors j'ai pratiqué ma formule et en même temps, la société n'était pas rendue là. Là, la société a évolué, avouons-le. Aujourd'hui, on parle d'identité, mais on parlait pas de ça à l'époque, là.
Alors, ce qu'on peut retenir.
Mais il y a parfaitement raison
parce que
c'est comme Michel Louvain. C'est clair que, si tu recules, il y a 40 ans, quelqu'un qui est un chanteur de charme, comme Michel Louvain ou même Serge Laprade, ou qui se bâtit une image.
Que les femmes adoraient.
Eh oui, là, tu sais, ça aurait pas passé, non. Ça aurait été difficile. Puis, ce qui ne les a pas empêchés de vivre leur vie, là, autant Michel Louvain que Serge Laprade. Mais c'est clair que le contexte, disons, la réception a été différente du public.
Mais tant mieux de l'avoir fait.
Mais tant mieux, certain.
De son vivant, parce que je pense que ça a inspiré beaucoup, beaucoup de gens. Donc, on retient évidemment de Serge Laprade cet amour pour son métier, son public et aussi, surtout, son amoureux, Daniel.
Il faisait le moment tendre à ses cassés.
Oh. C'est l'enceinte du moment zen.
Oui, oui. On est passé à autre chose, mais c'était là... une grosse affaire là, c'était ce qu'on avait, un feature là, de radio, ouais. Là qui était marquant, et il a fait ça pendant des années, mais c'était là avec son poème et tout ça, c'est
et tellement une belle voix réconfortante.
Voilà, ben encore une fois nos pensées à Daniel, son conjoint.
L'essentiel de Paul Arcan, les grandes entrevues de la semaine.
Claude Meunier est avec nous. Claude,
oui, bonjour.
Tu m'avais parlé de ça il y a fort longtemps.
Ouais, un vieux projet, un vieux rêve.
Tu m'avais dit, c'est une joke, tu sais, j'ai un album puis d'un spectacle de country, tu sais.
Western.
Oui, western. OK, western. Et là ça se concrétise.
Ouais.
Pourquoi maintenant?
Et c'est la vie qui a fait que ça arrive maintenant. J'ai commencé à faire ça pendant que je faisais la petite vie avec une rencontre inopinée avec d'abord Simon Proulx des Trois Accords il y a quelques années, puisque c'est comme mon neveu spirituel, Simon, puis on se rencontre dans la vie, puis on avait le projet de faire peut-être des petites chansons western. Je faisais ça il y a 40 ans en blague avec les frères de nuit dans Paul et Paul. Puis là, j'ai rencontré un musicien qui s'appelle Jean-Sébastien Chouinard, qui est un gars qui joue avec les Cowboys Fringants de la guitare, puis on s'est croisés, puis il m'a dit, paraît que t'as fait des chansons, puis ça a tout pris pour que j'aille y montrer une chanson pour le fun. Puis finalement, il a monté un band, lui, qui s'appelle, on a dit, ça va être La Famille de Nuit, la suite des Frères de Nuit. Puis je me suis mis à écrire des chansons pendant que je faisais La Petite Vie, en parallèle. Puis, en tout cas, ça a fait qu'on a tranquillement fait un album depuis un an et demi, presque deux ans. Puis on va sortir un album, mais c'est tout dans le plaisir. Écoute, c'est une treat, qu'on appelle ça une treat, là, une traite, je sais pas comment le dire en français, on se paye du bon temps.
Mais tu commences tranquillement.
Mon Dieu.
Quelques lundis.
Ça va peut-être finir dans trois semaines, Paul. Mais l'album, non. Mais on fait des petits lundis. Ça s'appelle Rodage. Au début, on appelait ça Sold Out. Puis les gens, il n'y a plus de billets. Il n'y a plus de savoir
qu'est-ce qu'il y a dans le radeau.
C'est une mauvaise idée que j'ai eue. J'ai parti ça dans... Je suis parti en me tirant dans le pied. Mais, après ça, on appelle ça Rodage.
Mais est-ce que t'aimes le western à la base? Ben, ou oui. C'est parce qu'il y en a qui vont dire que c'est une caricature qui est en train de faire.
Non, tu vois. C'est comme, écoute, faire une image simple, puis c'est un peu prétentieux de dire ça, mais c'est comme les trois accords western, tu sais. C'est des bonnes tunes, parce que j'ai des musiciens exceptionnels, c'est un band qui n'a pas de bon... Pas j'ai des musiciens, ce sont... Tu sais, c'est vraiment un projet de gang, parce que si moi je suis là avec mes chansons, puis je chante à la guitare, les gens vont sortir relativement vite de la salle. Mais avec la gang qu'il y a là, ils vont rester peut-être pour un rappel. Tu sais, c'est... Ben, enfin, je te dis ça, personne n'a entendu les chansons encore. Mais
ben, on connaît deux classiques, là,
ouais,
c'est sûr.
Ben, on a fait d'autres qu'on est bien heureux. Tu sais, c'est tous des thèmes comme « Seul dans ma tombe »,« Notre chien est mort »,« Shake ton bayou ». C'est des chansons très basiques de western. Et de...
Pourquoi t'aimes ça?
Je sais pas pourquoi j'aime ça. J'ai toujours aimé la musique country. J'étais un fan de Willie Nelson. J'allais le voir en spectacle. J'étais un fan de Emmylou Harris. J'étais un fan de... Parce que il y a de la très bonne musique country western depuis toujours. Là, il y en a encore de la... C'est même un petit peu à la mode de redevenir western. J'aime ça comme j'aime d'autres musiques. Tu sais, j'aime toutes sortes de musiques, en fait. Mais j'aime la musique, hein, finalement. Tu sais, j'aime jouer. Puis c'est des paroles drôles. C'est proche de mon univers. C'est proche de Paul et Paul. Ça ressemble à du Paul et Paul, un peu, ce qu'on fait, tu sais.
Mais c'est un monde, le vrai monde du western, là, c'est un monde en soi, c'est-à-dire que c'est un des artistes qui se gèrent eux-mêmes, qui se bookent, comme on dit, qui ont ils vendent leurs cassettes, je veux dire, encore. Là,
je voulais t'en vendre quelques-unes.
On va t'en prendre deux, trois.
C'est pas de moi, j'ai des cassettes de Julio Iglesias. Mais, mais écoute, nous autres, on a des gens autour de nous autres qui croient un peu au projet, mais là, l'important, c'était de faire un album, puis on s'est dit, écoute, on a annoncé des petits shops de Lézard, puis il y a personne qui venait acheter les billets. On était crampés. Mais là, ça a l'air qu'on a rempli un peu la place.
Alors, je rappelle que c'est les lundis 22 et 29 janvier et 5 et 12 février.
Ouais, c'est une petite salle de rien, là. C'est vraiment du rodage, puis c'est pour le fun, puis on a beaucoup de plaisir. C'est sûr que les gens...
Tu fais des festivals?
Je sais pas. On va voir dans 4 lundis. Peut-être faire des fermes laitières. Je ne sais pas trop où est-ce qu'on va être.
On va écouter un autre exemple. C'est un classique qui a été revisité, donc.
On l'a fait.
Oh, ton ennui dans l'eau de mon plaisir. Tu seras humecté de joie et de désir. Oui, chérie, trempe ton ennui dans l'eau de mon plaisir. Et je te protégerai de la brise. Je t'ai vu dans les bras de sa Chevrolet. Il t'a manqué le respect en te caressant l'abdomen. Il t'a dit le mot « je t'aime ». Je sais bien qu'un jour...
Et là, on devine que les autres tunes, c'est de la même mouture. Là. C'est du même genre. Là.
C'est le même genre. C'est, ben, y a des chansons, des rythmes différents.
Oui,
y a
des l'approche.
Oui, mais il y a des participations. Simon Prou est venu chanter sur deux chansons. Nous a donné une chanson. Daniel Boucher nous a donné une chanson. Il y a Marat Tremblay qui est venu chanter. Il y a toutes sortes de gens qui viennent. C'est la famille de nuit. Tu sais, au début, on se disait, ben, c'est pas tout le monde qui va être capable parce que c'est pas un band. On n'est pas parti là pour... on est là. On sait pas ce qui va arriver. Sincèrement, on sait pas. Mais on s'est dit, s'il y a d'autres gens qui viennent, c'est une famille. On peut avoir la cousine, le cousin, mais on s'appelle la famille de nuit. Puis dans notre tête, on dit qu'on vient de l'ancien Brunswick. On est à une place que personne connaît, tu sais. C'est pas le nouveau, c'est l'ancien. C'est
mais là, l'album n'est pas disponible encore.
Non, il va sortir, je pense, au mois de mars. Ouais, ouais. Mais on a beaucoup, beaucoup de plaisir. Regarde, c'est comme un AB qui déborde. C'est vraiment ça. Puis je faisais ça en même temps que La Petite Vie, en à côté, si tu veux. Puis ça, on s'est fait prendre au jeu avec toute la gang qu'il y a là. Il y a beaucoup de talent dans ce gang-là. Tu sais, c'est des musiciens hors normes. C'est comme un AB qui a débordé, exactement.
La Petite Vie, là, on se doutait que c'était pour devenir un autre succès, mais là, ça se confirme d'aplomb.
Ah, tellement content, parce que je me suis rendu compte que j'aurais pu me planter solide de revenir après 30 ans, pas 30 ans, mais 15 ans, en fait, dans la réalité. Mais ça fait 30 ans que ça existe. Mais ouais, ça a été fantastique à faire. Puis les échos sont bons, le monde aime ça. Puis les comédiens ont tellement été dedans, puis généreux. Puis tu sais, cette année, là, c'est assez phénoménal ce qu'on a vécu, sincèrement.
Ben, j'allais dire, ça fait beaucoup d'émotions, c'est-à-dire de ramener La Petite Vie, de retrouver l'équipe, de faire les tournages. Serge Thériault,
oui, Serge,
qui apparaît à la dernière minute, puis on l'a vu ailleurs, on entrevue Radio-Canada avec toi, puis tout ça, c'est comme, je sais pas s'il est en renaissance, là, mais on sent qu'il est...
Il est René, il est mieux. Il pourrait changer son nom pour René Thériault. Il est René. Mais écoute, il est mieux, Serge. Oui, il est beaucoup mieux. Ça a été... tout a bien été dans ce projet-là. Tout est tombé une étape après l'autre. Chaque étape a été fantastique. Les comédiens ont été tellement bons cette année. J'aimerais ça parler des comédiens deux secondes parce que c'est la première année qu'on fait La Petite Vie, là, puis que les comédiens arrivaient puis étaient tellement préparés. Ils ont toujours été préparés, mais là... Il jouait encore mieux que d'habitude, j'avais l'impression. J'avais l'impression que tout le monde jouait ça dans le tapis à fond. Puis quand Serge est arrivé, tout le monde était content. Ça a été un grand moment, puis ça va être dur pour nous autres à côté, comme mini-série.
Est-ce que la parenthèse est fermée?
Ben pour l'instant, elle est fermée. C'était sincère ce que je disais. Tu sais, je suis tanné de dire c'est fini, puis c'est pas fini, mais là, pour moi, c'est fini. C'est-à-dire que ça, cet épisode-là est clos, puis j'ai pas de projet de continuer ça pour le moment. La prochaine fois, comme je disais tantôt, probablement qu'on va être nonagénaire et que... On saura pas ce qu'on dit, puis peut-être qu'ils vont trouver ça bien absurde. Je sais pas.
Écris-tu autre chose?
Ben là, je travaille sur les deux nuits. J'écris oui. Des tunes. Là, j'écris rien d'autre pour le moment.
Rien du tout?
Ben, je travaille sur les deux nuits, c'est de la job.
Oui, non, mais je sais, mais ben, peut-être pas aujourd'hui, là, mais ce que je veux dire...
Ah, si je vais écrire éventuellement, sûrement.
Mais t'as pas amorcé des trucs, t'as pas pris des notes, t'as pas des fichiers ouverts sur ton ordi, non?
Ben, non, mais... Non, il n'y a pas. Si j'allais vers quelque chose, j'aimerais ça peut-être aller vers le théâtre un peu, là, réécrire pour la scène, puis oui, ça oui, peut-être. Pour d'autres, mais pas pour moi, là, mais pour d'autres. J'aime ça écrire pour les gangs. Ça, je m'en rends compte, j'étais un gars de gang, j'étais un gars de groupe, tu sais, comme là, les musiciens, puis La Petite Vie, c'est là le plaisir, c'est de se retrouver avec une troupe, une mini-troupe. C'est ça le fun, puis d'entendre les phrases, puis d'entendre de créer un univers. T'sais, comme la famille de nuit, c'est une famille. La famille des Paris, c'est une famille. C'est ça qui est bien. T'es avec une gang, c'est le fun. Tu échanges. Ouais, C'est ça que j'aime bien, moi. C'est ça que j'aime beaucoup.
Mais c'est une distribution, La Petite Vie. Écoute, d'abord, les personnages sont forts, là, on s'entend, là, mais les performances d'acteurs et d'actrices, c'est
Puis tu sais, cette année, ils ont tous embarqué, tu sais, comme Creton qui fait, je sais pas si tu l'as vu, ouais, mais qui fait des annonces de couches, tu sais, je veux dire, est embarqué à fond la caisse, là. C'est pas posé de questions. Puis Marc, puis Rémi qui... Moi, Rémi, quand il a joué... Quand il fait son film où il est Alzheimer, tu sais, des problèmes cognitifs, je l'avais pas vu. Puis j'ai écrit Pogo, plutôt Alzheimer. Il a embarqué à fond. J'avais peur qu'ils disent après, ben là, je viens de faire un.
Les gens vont penser que, là.
Ils vont penser que. Mais, ça a été un grand plaisir de faire ça parce que les thèmes étaient différents pour moi. T'sais, quand j'ai vu que je pouvais faire plus vieux, ils ont tous accepté. Puis ils n'ont pas eu peur d'avoir l'air plus vieux, puis d'avoir des problèmes un peu de vieux, puis d'y aller à fond. Puis Marc Messier, qui était tout simplement hallucinant avec sa queue de cheval. Puis c'était très décollé cette année avec Thérèse qui fait des tons de parterre, tu sais, qui fait que des tons.
Puis il n'y a pas eu de controverses. Moi, je me disais, il va y avoir des controverses, tu comprends, parce que les plus fragiles vont se manifester, puis on peut pas dire si, puis peut-être que ça pourrait indisposer. Je sais pas si tu as fait attention.
Non. Ben, le coming out, je pensais qu'il y aurait des controverses quand on apprend que Rénal et Lison ont adopté un enfant noir, puis ils savent pas. Tu veux dire, en tout cas, c'était comme un peu, puis elle a dit, je compterai pas toutes les gags.
Non,
elle a dit, je viens de Rivière-du-Noir, la partie noire de Rivière-du-Loup. J'ai dit, peut-être ça va gueuler.
Non.
Non, parce que c'est, je sais pas pourquoi. C'est fait avec humour, puis c'était assumé, puis j'ai pas cherché à prendre les thèmes actuels. C'est juste que je vis la vie d'aujourd'hui. Timmy, il est sur Internet, mais j'en fais pas un cas. Il est sur Internet, puis il est sur Timber, puis il cherche des filles, puis évidemment, il tombe toujours sur des espèces de trans. Trans, je sais pas quoi. Transylvanien, en tout cas. C'est pas des vrais trans, c'est des... My God, c'est des tranches montagnes, je sais pas.
Là, tu vas te mettre dans le trou.
Oui, c'est ça, là. Excusez. Non, il n'y a pas d'excusez tout le temps.
Claude, lundi 22, 29 janvier, 5 et 12 février, c'est à la Place des Arts, la salle Claude Léveillé.
Oui.
Écoute, ça va être quelque chose.
Oui, ça va être... J'ai un peu peur, mais j'ai très hâte.
Ouais. Si je travaillais pas, le lendemain, je serais allé voir ça, du peinture.
Ah oui, ben écoute.
Mais malheureusement, je me
lève... On va te faire une matinée.
Je peux pas voir les deux nuits, je me lève la nuit.
Il faudrait qu'on fasse les deux jours.
Les deux jours.
On travaille là-dessus, Paul.
Merci beaucoup d'être
toujours un grand plaisir.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Essentiel de Paul Arcan, les grandes entrevues de la semaine.
Ce matin, c'est particulier, j'ai invité deux femmes à venir parler de leur grossesse et surtout de ce qu'on appelle le quatrième trimestre. Là, je suis le gars blanc de 60-quelques années pour mener cette discussion. Alors, je vous envoie des questions, puis vous allez sans doute attraper la balle au bon. C'est Valérie Roberts qui est avec nous. Elle nous propose un livre qui s'appelle Postpartum, les hauts et les bas du quatrième trimestre. Bonjour.
Bonjour.
Et en ligne avec nous, Léane Labrèche d'Or, qui témoigne dans ce livre de son expérience. Léane, bonjour.
Bonjour.
Valérie Roberts, je commence avec toi. Ma collègue Jessica Dumoulin me disait, quand on est enceinte, on sait tout de ce qui va se passer pour l'enfant, comment la grossesse va se dérouler, mais on nous dit pas grand-chose sur l'après-accouchement.
Oui, absolument. C'est comme si la maman, on assume qu'elle va s'occuper de son enfant, qu'elle va savoir quoi faire, puis qu'instinctivement, elle va devenir une mère. T'sais, on parle toujours de l'instinct maternel là, qui fait en sorte que dès qu'on met l'enfant sur nous, on devait trouver ça magique et merveilleux et trouver que notre vocation, elle vient d'être établie. T'sais. Mais ça, ce qu'on parle peu, c'est les difficultés que l'on peut ressentir quand on a finalement notre enfant, que l'accouchement peut être vraiment plus complexe que ce qu'on imaginait, le lien peut des fois ne pas se faire immédiatement dès qu'on a notre enfant dans les bras. Puis après ça vient l'anxiété, vient l'hypervigilance. Léane, dans le livre, témoigne, elle, d'un sentiment de culpabilité qui l'habite continuellement. T'sais, c'est comme si on imagine que ça va officiellement bien aller parce qu'on met, tu sais, on idéalise beaucoup la maternité, on met des lumières, des belles lunettes roses là, puis on dit vas-y madame, organise-toi avec ton enfant maintenant. Puis ça, quand tu vis des difficultés, puis que tu cherches à trouver, à comprendre pourquoi tu es en train de vivre ça, puis tu regardes sur internet, puis il y a pas d'autres témoignages, mais tu te sens vraiment toute seule, puis tu te sens vraiment honteuse. Puis moi, c'est ce que j'ai vécu, puis c'est pour ça que je voulais partager dans le livre 14 autres femmes, 14 autres visions, dont celle de Léane, pour dire ben vous êtes pas toute seule, ça c'est clair.
Léane, je veux t'entendre de ton côté. Ouais. T'as passé ce moment-là de quelle façon?
En fait, c'est que ça chamboule complètement tout, avoir un enfant. Donc, comme c'était dit précédemment, pendant la grossesse, il y a quand même un suivi parce que de toute façon, à titre médical, on se fait dire exactement qu'est-ce qui se passe dans notre corps, tout ça. Puis effectivement, après, le bébé, il sort, puis c'est comme, OK, bonne chance, bye, tu sais. Puis, c'est qu'il y a comme c'est su, là, toutes les grossesses sont différentes et tous les accouchements sont différents et toutes les maternités, les parentalités sont différentes. Puis, il y a comme une pression de bien la vivre, là. Ce que Valérie disait, c'est qu'on s'imagine qu'en un clin d'œil, on devient une mère formidable, tu sais. Puis, c'est dur parce que souvent, on se prive d'en parler. On se prive de demander conseil aux autres. On a comme l'impression qu'il faut qu'on soit bonne tout de suite, qu'il faut qu'on n'ait pas d'inquiétude tout de suite.
Mais est-ce que ça inclut ton conjoint? Est-ce que ça veut dire de pas en parler à tout le monde, mettons, mais de la personne qui est le père de l'enfant, par exemple? Est-ce que tu lui parles, tu partages ça ou pas?
Ben, pour ma part, oui, j'ai la chance d'avoir une super belle relation avec mon amoureux, puis on s'en parle, mais il est dans le même néant que moi, tu sais, parce que c'est notre premier enfant. Je pense que c'est pas la même histoire qui se répète si on a des enfants subséquemment, mais il y a comme un truc qu'on se dit comme, ah, OK, là, faut qu'on soit de même, faut qu'on sache tout de suite quoi faire. Quand on a des insécurités, on sait pas vers qui se tourner nécessairement. Ce que je trouve super du livre que Valérie propose, c'est que justement, on a 14 récits différents. On s'est ponctué évidemment par les commentaires d'une psychologue qui vient aussi démystifier la patente, mais c'est surtout de faire, ah, des fois, je suis pas seule quand je me sens toute seule. Des fois, je suis pas seule quand j'ai mal aux fesses tellement je suis assise dans mes journées parce que j'ai l'impression de juste allaiter. Puis des bleus, c'est fesses, tu sais. Comment ça fait que personne n'avait dit que j'allais avoir mal aux fesses pendant 2 mois? Il y a comme tellement de petites affaires comme ça que si on n'ouvre pas la porte à en parler, ben on le saura jamais.
Avez-vous des tempéraments avant l'accouchement, avant la grossesse, de personnes anxieuses, de se sentir coupable? Je lisais le témoignage de Léane.
Oui.
Je me suis dit, vive la culpabilité de même, ça n'a pas de bon sens.
Oui, mais Léane, elle le dit elle-même dans le livre.
Qu'elle
était hyper coupable. Elle se sentait toujours coupable dans sa vie en général. Mais moi, c'est l'anxiété qui m'a envahie quand j'ai donné naissance à ma fille. J'avais jamais été anxieuse de toute mon existence. Je savais même pas c'était quoi. Fait que quand tout à coup, je rencontre ma fille, puis que moi, ce qui s'est passé, c'est que durant mon accouchement, j'ai eu peur de mourir, tu sais. Fait que après ça, tout ce que j'ai eu peur, c'est que ma fille puis moi, on soit pas ensemble. Puis l'anxiété, c'est tellement emparé de moi que je me laissais même pas tomber en amour avec ma fille en me disant...
Mais au point j'aurais pas dû avoir ma fille.
Ouais, tout à fait.
Il y a un
moment là, tu sais, ma fille a 2 ans et demi, puis là tout le monde me pose la question, ça va merveilleusement bien.
Elle est où ce matin? Qui s'en occupe?
Est-ce que à la garderie, c'est okay. Papa qui s'en occupe, tout va bien, c'est réglé. Mais tu sais, il y a un moment où je me suis dit, c'est clair que j'ai fait une erreur, je ne pense pas que je vais être une bonne mère finalement. Cette pauvre petite fille là, elle se ramasse avec moi. Parce que puis je sais pas comment prendre ça, puis je comprends pas ce qui se passe avec moi, puis dans ma relation, ça devrait être plus facile d'être une mère.
Mais j'allais dire, les deux, vous avez des partenaires de vie qui se sont impliqués, c'est pas
vraiment
des pères absents, c'est pas vraiment des gens qui vous ont mis toute la pression, puis débrouille-toi, là, ça. Et ça, même ça, c'était pas suffisant pour faire baisser l'anxiété, faire baisser la culpabilité, Léane?
Ben, je pense que oui, dans le sens où j'imagine que si mon chum n'avait pas été là, j'aurais été 20 fois plus coupable. Dans le sens où je me serais sentie 20 000 fois plus coupable que ce que c'était là. Mais malgré toute la bonne volonté du monde, autant de sa part que de la mienne, tu sais, d'essayer de me calmer dans cette culpabilité-là, ben, c'est plus fort. T'sais, c'est des émotions à prendre dessus, c'est pas rationnel. T'sais, moi, le sentiment de culpabilité est arrivé la seconde 1 où j'ai été enceinte parce que ben ça donne, j'ai fait une fausse couche moi avant d'avoir mon enfant. T'sais. Donc déjà un événement qui me fait sentir coupable d'avoir pas été capable de mener à terme la vie d'un enfant alors que t'sais, je veux dire tout le monde nous répète que c'est pas grave, ça arrive, mais ça fait en sorte que moi Milo est arrivé dans mon ventre. Puis là, je me sentais coupable de tout. Si, mettons, il y avait une journée où j'avais trop de nausées puis je bougeais pas, ben je me sentais coupable parce que je me suis fait dire à quel point c'est important de garder l'exercice pendant la grossesse pour que l'enfant se développe bien. T'sais. Si, mettons, il y avait une journée où je faisais du sport, ben là, j'étais très fatiguée. J'étais comme, ah, j'espère que ça n'a pas fait mal à mon bébé. Mm. Il y a comme, toutes les avenues sont facilement accessibles pour que ces sentiments-là prennent le dessus. Les hormones aussi, évidemment, ont énormément de rôle à jouer là-dedans, c'est sûr.
Parce que, tu sais, nous, dans le fond, quand on tombe enceinte, là, ce qu'on nous remet, c'est un guide qui s'appelle Le Mieux Vivre. Ce guide-là, c'est le guide pour comment gérer un bébé lorsque tu l'as. Il y a quelques pages qui parlent de la maman après l'accouchement. Puis ce qu'on dit, c'est tu vas vivre la chute d'hormones. C'est ce qu'on appelle le baby blues. Règle générale, ça dure 3 semaines. Si après 3 semaines, tu vas pas encore bien, on appelle ça une dépression postpartum. Faut que tu ailles consulter. Merci, bonsoir. Fait que toutes les autres émotions que l'on peut vivre, tu sais, là, on parle de la culpabilité, on parle de l'anxiété, mais il y a des femmes dont la relation avec le corps va être très difficile après parce que le corps évolue, veut pas, tu sais, tu pousses un être humain dans ta bédaine pendant 9 mois, mais aussi tu vas l'accoucher. Fait que ça change le corps. Il y a des gens qui vont découvrir que leur partenaire avec qui ils ont eu un enfant, ben ça marche moins bien quand ils sont des parents, tu sais. Puis avec les hormones que la femme va être envahie de ces hormones-là, ben ça devient difficile au niveau de la relation, tu sais. Il y a ça qui est particulier puisque comme t'es la seule personne qui a vécu cette montée d'hormones et cette chute d'hormones, même si on est bien entouré, même si les grands-parents sont là, même si il y a quand même quelque chose qui se vit seul et à l'intérieur.
C'est quelque chose qui doit se vivre seul. Il faut le savoir, il faut entendre les témoignages. Le livre, là, c'est parfait pour ça.
Ouais.
Mais est-ce que vous auriez eu, à ce moment-là, besoin de pouvoir vraiment en parler?
Moi, j'aurais vraiment, vraiment, vraiment eu besoin d'en parler. Je me sentais dans le noir, mais ne sachant pas où est la sortie. Là, es-tu en haut, es-tu en bas, à droite? Puis surtout, honteuse. Parce que personne...
Honteuse?
Ouais. Puisque personne en parlait que c'était difficile, j'étais persuadée que j'étais la seule personne pour qui c'était difficile, puis que c'était mieux de pas en parler parce que ça faisait de moi quelqu'un de très étrange d'admettre que je trouvais ça difficile, puis que c'était pas aussi heureux que ce que j'avais imaginé puis espéré même, parce que quand t'es enceinte t'espères que ça soit glorieux, tu sais.
Les enfants vont vieillir, c'est clair, hein? Puis il y a d'autres étapes d'anxiété potentielles, tu sais, ça peut être la garderie, ça peut être l'école.
Moi, je veux pas en entendre plus là.
Ça va être l'adolescence.
C'est difficile.
Je peux en témoigner là, j'ai rendu pas mal grand, fait. Mais ça, est-ce que ça vous inquiète aussi ton anxiété par exemple?
Ouais.
Est-ce que tu te dis, waouh, ça va être quoi de rendu à l'école, puis à la garderie, est-ce que ça va, puis est-ce que, bon, toutes ces phases de la vie.
C'est différent parce que dans le quatrième trimestre, tu apprends à être une mère, tu apprends à être un parent. Fait que je présume que quand ton enfant est rendu, tu sais, moi, j'ai 2 belles filles à l'adolescence, j'apprends ça aussi, tu sais. Mais je présume que chaque étape de la vie t'apprends, puis t'apaises, puis les commentaires, puis les témoignages que j'ai autour de moi, c'est que finalement, on finit par s'y habituer, entre guillemets. T'sais, chaque étape dans la vie de ton enfant va te faire vivre des émotions, mais je pense que le quatrième trimestre, il est circonscrit, il est particulier, il est régné par les hormones, mais aussi par l'inconnu, parce que tu sais pas ce que t'es en train de faire, puis ce qu'on dit, c'est que t'es supposé le savoir.
Léane?
Ben oui, moi je suis tout à fait d'accord. Je pense que en fait, ce qui est différent, c'est qu'on apprend à nager. Tu sais. Moi, j'ai souvent dit qu'avoir un enfant, quand c'est notre premier, c'est la plus longue improvisation du monde. Là, tu sais. c'est comme si, je pense qu'avec le temps, il y a des choses qu'on apprend à gérer différemment parce qu'on s'habitue. Mais le quatrième trimestre, c'est vraiment t'es sur un bateau, là, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui te pousse à l'eau, tu sais pas nager, qui fait OK, bye, bonne chance. Tu sais. Fait que tu tombes à l'eau, puis tu essaies de te débrouiller, puis à un moment donné, ben comme tu prends ton aise, tu trouves des mouvements de brasse qui sont fun, puis à un moment donné, ça se stabilise, je pense, là-dedans, mais ça veut pas dire que les défis s'arrêtent, évidemment, au quatrième trimestre. Puis, tu sais, on parle du quatrième trimestre puis du postpartum des mères, mais je pense que ce genre d'ouvrage-là serait tout à fait pertinent aussi pour la paternité. Tu sais, je pense que ce quatrième trimestre-là, c'est sûr que les mamans, on le vit complètement différemment parce qu'il y a une implication qui est complètement autre. Même si on est en 2024 maintenant, mais 2022 ou 3 quand le livre a été écrit, même si les hommes sont vraiment plus présents qu'ils étaient avant, même si ils ont toute la volonté du monde d'être des pères, là, c'est all hands on deck, là, comme on dit, ben il y a des choses qu'ils pourront jamais faire. Tu sais. Si on décide d'allaiter, malheureusement, le papa, même s'il peut venir aider à donner un biberon une fois de temps en temps, ben c'est pas lui qui peut se plugger le tire-lait, c'est pas lui. Puis il y a ça. Si c'est la mère, je veux pas, qui est en charge des premiers pot à pot le plus souvent, tu sais, pour vraiment oui. comme sceller certains bienfaits pour
mais
le bébé.
Mais il y a un rôle de prendre soin de la mère, je veux dire, puis du bébé en
ouais.
même temps, tu sais, de au moins
fait.
Faciliter
c'est
la
sûr.
Vie.
Ouais, ouais.
En terminant. Valérie, qu'est-ce que ta fille va penser quand elle va avoir 15 ans puis qu'elle va lire ce que tu as écrit?
Ça, j'y ai longtemps pensé. Parce que quand même, tu sais, les écrits restent.
Bien sûr.
Alors donc, de dire dans un livre que j'ai regretté pendant un moment d'avoir eu un enfant, je me suis demandé si c'était une bonne idée ou pas. Puis finalement, ma conclusion, c'est que depuis que je parle de la création de ce livre-là, je reçois énormément de témoignages. Là, c'est quelque chose qui vient viscéralement chercher les femmes qui ont vécu un quatrième trimestre en ressentant certaines difficultés. Puis parmi les témoignages, il y a des gens qui me disent que autour d'eux, quelqu'un s'est enlevé la vie tellement son postpartum était difficile. Et je ne parle pas de dépression, là. Mm-hmm. Je parle juste d'inconvénients liés à la nouvelle maternité puis la honte dans laquelle tu peux vivre de te dire « Hey, c'est pas idéal comme ce que j'avais imaginé. » Fait que si ma fille, lorsqu'elle a 15 ans, lit ce livre-là puis n'est pas capable de comprendre que sa maman, elle voulait aider les gens puis que
Ça peut peut-être lui arriver à elle aussi.
Exactement. Puis que si un jour, elle avait un enfant puis qu'elle sent pas bien, maman va être là sans aucun jugement, dans l'ouverture, puis je dans l'espoir que par le temps qu'elle arrive à avoir un enfant, la société va avoir décidé d'aider les mamans aussi, tu sais, puis du le fameux village pour élever les enfants, il faut aussi le village pour aider les mamans quand elles donnent naissance. Mais ça, c'est une réflexion qu'on a besoin d'avoir.
Léane, qu'est-ce que le fils va penser de sa mère?
Ben sûrement qu'il va me regarder, il va dire mon Dieu, non, même intense là, mais ça. Je pense que c'est juste un. Je trouve ça beau, moi, qu'il y ait une réelle franchise, tu sais, de la part de toutes ces femmes-là d'avoir témoigné dans ce livre-là, parce que je pense que ça peut juste aider à faire un espèce de portrait comment, justement, cette aventure-là n'est pas juste un long fleuve tranquille. Tu sais, cette aventure-là peut être bousculée. Puis ce qui est beau, c'est que malgré toutes les bousculades, malgré toutes les embûches, les défis, ben l'amour est là.
Toujours.
Je pense que c'est l'amour qui dicte. Au final, là, si on essaie de prendre un pas de recul, l'amour va dicter la mère qu'on est capable d'être. Puis je pense qu'à partir du moment où on ressent cet amour-là, ben l'enfant peut pas non plus trop s'en vouloir. Là, je sais pas.
Pense pas, non. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec nous ce matin.
Merci beaucoup pour l'accueil.
Valérie Roberts et Léane Labrèche d'Or. Le titre du livre, c'est Postpartum et c'est publié aux éditions Très Carré.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
Maintenant, on va parler d'insomnie. On sait que les Québécois, mais je dirais, ça se limite pas au Québec, bien sûr, les nuits sont parfois difficiles. On a de la misère à s'endormir, on se réveille en plein milieu de la nuit, ça affecte notre morale. Et il y a une étude qui semble vouloir démontrer que la psychothérapie peut s'avérer aussi efficace contre l'insomnie que les somnifères. Donc, une approche pour changer les habitudes, les comportements, plutôt que d'aller vers les médicaments. Le docteur Charles Morin est avec nous. Il est professeur à l'école de psychologie à l'Université Laval. Docteur Morin, bonjour.
Bonjour.
Expliquez-moi en gros les conclusions de cette recherche.
Bien, c'est une étude où on a recruté plus de 200 personnes qui souffraient d'insomnie chronique. Puis, on leur a offert d'abord un traitement comportemental ou une médication. Puis, après 6 semaines, s'ils n'étaient pas en rémission, il y avait la possibilité de recevoir un deuxième traitement. Donc, on a déjà rapporté les résultats de cette étude-là sur les variables reliées au sommeil la nuit. Mais dans cette étude qui vient d'être publiée, on se concentre sur les séquelles diurnes de l'insomnie. Vous savez, quand on vit de l'insomnie, il y a beaucoup de fatigue qui s'ensuit et le lendemain, baisse d'énergie, problème d'humeur, de concentration et ainsi de suite. Alors, dans cet article qui vient d'être publié, on a démontré que les deux approches produisaient des bénéfices sur le fonctionnement diurne et qu'il y avait un avantage lorsqu'on répondait pas à la première approche d'en ajouter une deuxième. Mais on parle toujours ici de traitement à court terme pour des gens qui ont souvent souffert d'insomnie pour plus de 10 ans. Bien, le traitement, il dure à peu près 6 semaines. Le premier et le deuxième, la même durée si on a besoin de l'introduire.
Par exemple, est-ce que quand vous avez cette approche donc de psychothérapie, ça donne des résultats peut-être plus importants à long terme? Autrement dit, c'est pas juste un somnifère qui nous fait dormir, mais là, ça nous apprend à modifier nos habitudes de vie?
Tout à fait. Quand on parle de psychothérapie, ici, il y a une forme de psychothérapie bien spécifique qu'on appelle la thérapie cognitive comportementale. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il y a le volet comportemental, qu'on modifie les habitudes, les horaires de sommeil. Le volet cognitif, c'est plus axé sur les perceptions, les croyances et les attitudes. Donc, une approche comme ça, c'est clair que ça demande plus d'efforts, ça demande une bonne dose de motivation. Mais comme vous le dites, les résultats sont beaucoup plus durables. La médication va produire des effets plus rapides, mais lorsqu'on cesse de prendre la médication, souvent on va se retrouver à la case départ. Donc, chaque approche a ses avantages et ses limites. Il n'y a pas une seule approche qui répond aux besoins de toutes les personnes qui souffrent d'insomnie chronique.
Quand vous dites chronique, là, comment vous pourriez définir ça?
Ben, premièrement, l'insomnie se manifeste de différentes façons. On peut avoir soit des difficultés à trouver le sommeil lorsqu'on va au lit, ou il y a des personnes qui n'ont pas de problème à trouver le sommeil, mais qui se réveillent au cours de la nuit, des réveils courts mais fréquents, ou des réveils moins fréquents mais de plus longue durée. Et finalement, il y a des personnes qui n'ont pas de problème à trouver le sommeil et à rester endormi pendant 4-5 heures, mais ils se réveillent de manière prématurée le matin et la nuit est écourtée. Donc ça, c'est les trois formes classiques d'insomnie. Et tout le monde va faire une nuit occasionnelle d'insomnie. Donc, on parle d'insomnie chronique lorsqu'on a des difficultés de sommeil 3 nuits ou plus par semaine et que ça persiste au-delà de 3 mois.
Des gens qui disent, là, par exemple, que je dors 5-6 heures par nuit, j'en ai assez, puis j'ai pas besoin de plus. Ça se peut, ça?
Oui. Là, vous me donnez un exemple. Oui. 5-6 heures, c'est possible. Il y a des différences individuelles. En gros, on a besoin, les adultes, de 7 à 8 heures de sommeil par nuit. Mais il y a des personnes qui s'en tirent relativement bien avec un peu moins de sommeil. Et il y en a d'autres qui ont besoin de plus d'heures de sommeil. Puis quand vous me dites 5-6 heures, c'est possible, mais on sait qu'une personne qui dort peu a peut-être des risques accrus de développer certains problèmes de santé mentale ou physique. Puis les gens qui prétendent avoir besoin de 3-4 heures de sommeil, c'est excessivement rare que ces personnes-là peuvent rester éveillées adéquatement pendant toute la journée. Donc, il y a des exceptions, mais ça tourne beaucoup autour de 6-7-8 heures de sommeil par nuit chez l'adulte.
Est-ce que l'insomnie, c'est un problème en croissance?
Bien, c'est clair que pendant la pandémie, c'est un problème qui était extrêmement élevé, fréquent. On a amené des enquêtes pendant cette période-là et ça a augmenté 2-3 fois les niveaux qu'on avait en temps normal. Là, présentement, on espère que c'est revenu un peu à la période pré-pandémique, mais on pense souvent, oui, que c'est en croissance, mais je pense qu'on y accorde un petit peu plus d'importance au sommeil que si on retourne 20-25 ans en arrière. Aujourd'hui, on a beaucoup plus d'informations sur l'importance du sommeil. C'est un pilier au même titre que la nutrition ou l'entraînement physique pour une santé globale durable. Donc, si on dort mal, peut-être qu'on va y porter un petit peu plus attention qu'auparavant. Du moins, c'est ce qu'on souhaite avec les données probantes qu'on a maintenant sur l'efficacité des traitements.
En terminant, je peux pas faire autrement que vous demander des conseils pour les gens qui écoutent ce matin pour bien dormir, pour pas souffrir d'insomnie. Avez-vous quelques trucs, quelques pistes à suivre?
Oui, il y en a des trucs, mais il n'y a pas de solution facile pour un problème à long terme. Mais une chose est certaine, c'est qu'on a tendance à passer plus de temps au lit qu'on devrait le faire, surtout quand on fait de l'insomnie. On a tendance à vouloir aller se coucher un peu plus tôt, se lever un peu plus tard, alors qu'on devrait faire l'inverse. Si on dort mal, si notre sommeil est fragmenté, brisé, on devrait compresser notre fenêtre de sommeil pour augmenter les chances d'avoir un sommeil plus consolidé. Puis on peut pas travailler mentalement ou physiquement jusqu'à la dernière minute, éteindre les lumières, puis penser que notre cerveau va se mettre en mode sommeil tout de suite. Ça prend une période de décompression, de transition. Puis aussi, si on dort mal, si on n'est pas capable de dormir, on devrait pas essayer de forcer la note. Plus on essaie de forcer le sommeil, plus longtemps on va rester éveillé. Donc, faut faire attention à la fameuse anxiété de performance. Ça peut nous amener dans un cycle vicieux assez rapidement.
Puis est-ce que c'est important de, idéalement, se coucher toujours à peu près à la même heure, puis de se lever à peu près à la même heure?
C'est surtout important de se lever à la même heure pour entraîner notre horloge biologique. Puis le soir, je pense qu'il est préférable d'aller avec notre rythme naturel. Si on n'a pas sommeil à 21 heures, allons pas se coucher à 21 heures. Attendons que le sommeil
nous envahisse
pour renforcer l'association entre aller au lit et s'endormir rapidement. Et surtout, il faut laisser le cellulaire et les appareils électroniques hors de portée et hors de vue pendant la période de sommeil.
Dernière question. Vous, est-ce que vous dormez bien?
Habituellement, oui. Il y a des périodes où le sommeil est plus écourté lorsqu'on a certains échéanciers à rencontrer. Mais je pense que dans le monde des médias, probablement qu'il y a plus de problèmes de sommeil qu'ailleurs, compte tenu des horaires auxquels vous devez faire face.
Ça, c'est sûr. Merci beaucoup, Dr. Morin. Bonne journée.
Bonne journée, merci.
Dr. Charles Morin, qui est professeur titulaire à l'École de psychologie à l'Université Laval, directeur du Centre d'études des troubles du sommeil, et donc qui publie cette recherche sur la façon de régler les cas d'insomnie chronique. Je parle pas d'insomnie temporaire, là, qui est lié à un événement ou une situation, mais pour des gens pour qui c'est un problème récurrent. Donc, la psychothérapie qui peut faire un bout, qui peut aider à changer les comportements, et tout aussi efficace donc que des somnifères.
Vous écoutez Balado du dimanche, une présentation de C23. Vous voulez plus de balado? Abonnez-vous à l'Essentiel de Paul Arcand sur Apple Balado, Spotify ou Google. Un nouvel épisode tous les jours en semaine vers midi. Après la pause, ça tient la route avec Benoît Charrette.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.